l'Amérique.
Who doesn't see red states and blue states only sees the United States.
Avec Valérie Beaudoin.
Bon matin, Valérie.
Bonjour, Patrick.
On va commencer par des détails sur l'explosion à Nashville. Il y a eu des nouveaux détails là, qui sont sortis au cours des dernières 24 heures.
Oui, tout à fait. Hier, je vous parlais de cette explosion mystérieuse où on avait entendu un message enregistré qui disait aux gens d'évacuer parce que une certaine roulotte un peu là, allait exploser dans les rues de Nashville, ce qui s'est passé dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et là, c'est vraiment, ça l'a affecté largement l'État du Tennessee. On demande même l'aide fédérale au gouvernement américain. On a envoyé une lettre à Donald Trump pour de l'aide parce que le système téléphonique a été affecté. Ça l'a affecté la compagnie AT&T. Alors, même des centrales 911 étaient en panne. Imaginez, en pleine crise comme ça, quand on a une explosion qui a détruit plus de 40 commerces au centre-ville de Nashville, on demande de l'aide. Et on a aussi visité une résidence d'une personne d'intérêt en banlieue de Nashville. Et ce qu'on croit, c'est que la personne, dans une des hypothèses, c'est que cette personne-là aurait explosé avec le véhicule. Ça aurait été un geste donc délibéré. C'est une des pistes qui est étudiée, mais vous comprenez là, qu'en ce moment, on ne le sait même pas parce qu'il y a des tissus qui ont été vus sur place.
Des tissus humains, oui.
Oui, mais on ne sait pas encore, c'est pas confirmé que c'est bel et bien des restes humains. Alors, il y a tout ça à vérifier. Je ne vais pas être trop dans le scabreux ce matin,
ouais.
Mais simplement vous dire qu'il y a quand même une personne d'intérêt qu'on vise. Est-ce qu'elle n'était pas à sa résidence? Est-ce qu'elle est donc décédée? Mais on a quand même fait des perquisitions d'ordinateurs ou autres en banlieue de Nashville. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on risque d'avoir un peu plus de détails. Surtout comprendre pourquoi cette personne-là aurait posé ce geste-là en voulant pas blesser des gens finalement.
C'est c'est particulier en tabarnouche. OK, parfait. On va faire le point sur le plan de relance économique qui a été rejeté jusqu'à présent là, par le président malgré des mois de négociations. Mais là, est-ce que les Américains qui sont touchés par la pandémie vont carrément être laissés à eux-mêmes, quoi?
Écoute, à partir de minuit hier soir, il y a plusieurs aides chômage, à l'assurance chômage, des bonifications qui sont simplement annulé en ce moment parce qu'on est un peu dans les limbes. On n'a pas signé le papier. Il n'est pas devenu texte de loi. Alors, il y a entre 12 et 14 millions d'Américains qui perdent leur chèque à partir d'aujourd'hui. Et on le sait, il y a une crise sanitaire au sud. Il y a une crise financière aussi.
Ouais.
Alors, vraiment, ça a un gros impact. On peut aussi avoir une paralysie complète du gouvernement dès lundi si on ne s'entend pas parce qu'on a ce qu'on appelle un shutdown qu'on a déjà eu. Alors là, ça veut dire qu'il y a des gens, des militaires qui ne recevraient pas leur chèque non plus pendant la période des fêtes. Donc, bref, j'en aurais beaucoup à vous dire sur le sujet, mais simplement vous dire que le président a encore refusé de signer ce texte de loi de 900 milliards de dollars pour aider aux gens touchés par la pandémie. Donc, la suite des choses va être extrêmement difficile, surtout pour les républicains qui, eux, pensaient avoir l'accord du président, mais qu'à la dernière minute, il a décidé de changer d'idée et de demander une augmentation des chèques envoyés aux gens de 2000 dollars, ce que les démocrates sont d'accord de faire.
Bien sûr.
C'est ça qui est assez particulier dans la situation, mais on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, qui va être quand même critique entre Noël et Jour de l'An pour les Américains.
Mais est-ce que tu t'attends à ce que tout ça, ça soit signé d'ici le 20 janvier, selon toi?
Écoute, il faudrait qu'il le signe avant le 3 janvier.
Okay.
Parce que le nouveau Congrès américain, donc les membres du Congrès qui ont été élus en même temps que Donald Trump, eux sont assermentés le 3 janvier. Alors, le 3 janvier, c'est on repart à zéro, puis c'est des nouveaux membres du Congrès. Il y en a qui ont perdu leur siège, il y en a qui ont pris leur retraite, donc il y a des nouvelles personnes qui vont se présenter. Si le 3 janvier, on n'a pas réglé ça, il faut recommencer à zéro. Mais juste pour vous dire que ça fait à peu près 6 mois qu'on négocie à 900 milliards de dollars. Donc, écoutez, disons que je suis pas très, très optimiste pour la suite des choses, mais si Trump appose son veto, donc refuse, on a quand même le pouvoir de changer, de renverser sa décision. Au moins, on aurait une décision de la part du président. On pourrait le renverser avec les deux tiers du Congrès, ce qu'on croit qu'il pourrait arriver.
Valérie, hier, tu nous as présenté j'ai envie de dire, bon, il y avait un documentaire, puis également,
des séries sur,
Netflix,
sur CNN. Oui, exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler de propositions francophones, parce qu'hier, ce que j'ai proposé aux gens, c'était uniquement en anglais. Donc, pour les gens qui parleraient peut-être moins bien anglais, mais qui s'intéressent quand même à la politique américaine,
Oui. Deux
choses. Alors, il y a un balado de correspondants des radios francophones publiques à Washington, dont un collègue de Radio-Canada qui est là, qui participe à cette balado. RTBF, ça, c'est la radio-télévision belge francophone, RFI, Radio France Internationale, RTS, Radio-Télévision Suisse et France Info. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils font ça en français. Ils sont sur place à Washington, donc ils ont vraiment des histoires sur le terrain. Et comme c'est la pandémie, ils doivent enregistrer dehors au froid. Alors, ça, c'est assez particulier. Là, on voit les images si vous les suivez sur les réseaux sociaux. C'est Washington DC. Alors, Washington DC, ce podcast francophone qu'on peut voir. Et pour ce qui est de la deuxième suggestion, eh bien, je me la garde pour la semaine prochaine, ah, qu'on aura un petit peu plus de temps. Alors, je vous garde en appétit, mais j'aurai un livre, un ouvrage en français à présenter aux gens la semaine prochaine.
Mais juste pour revenir vite fait là, sur ton podcast en français, oui, qui s'appelle Washington DC, est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'on suit l'évolution de l'information au quotidien ou si on analyse à chaque semaine? Comment ça?
C'est environ une fois par semaine. Donc, okay, eux, en fonction des événements, comme le dernier, je crois que c'était le 18 décembre, donc avant la pause des fêtes. Et vraiment, on parle de l'actualité, de ce qui se passe. Pour le dernier épisode, il était justement devant un édifice où on venait de voter. Le collège électoral venait de voter à Washington pour Joe Biden. Alors, c'était symbolique et on parle de ce qui se passe dans l'actualité. On analyse ce que Donald Trump fait, ce que sera la présidence de Joe Biden. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont sur place et qui ont rencontré des citoyens américains. Donc, ils ont des histoires à raconter sur le terrain. Il y en a beaucoup qui ont couvert aussi la dernière élection. Alors, ça rajoute à ça. Et c'est en français. Donc, ce que je trouve, l'offre est quand même limitée. Ce qui vient des États-Unis, on en a ici quand même une offre, mais de là-bas, c'est assez limité.
Merci beaucoup, Valérie Beaudoin. On se parle la semaine prochaine, bien sûr.
Oui, avec plaisir. Bonne journée.
À tout à l'heure, 8h44. Bon matin, tout le monde. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, les sports s'en viennent avec Martin Lemay. Et on va recevoir également Jean-Nicolas Véraud pour nous parler de sa nouvelle émission, La Cour est pleine.